Bonjour à tous. Ça fait du bien d'enlever le masque. J'hésite à mettre un cliché comme ça au début parce qu'il y en a qui vont chercher tout de suite le manteau ou le sac et vous allez penser que c'est la fin du culte. On ne parle pas de la fin du culte, on parle du fait qu'on s'approche tout doucement de la fin de notre considération de la vie de Moïse, cet homme exceptionnel. Je pensais qu'il me restait encore une fois pour parler de lui, et au milieu de la nuit, je me suis réveillé, et il y avait une autre idée qui... Alors, il va y avoir encore deux fois. Mais il y a quelque chose qui arrive d'exceptionnel cette semaine. Vous savez ce que c'est? Cette semaine, oui, il y a quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans l'année. Et c'est cette semaine. Ah, c'est l'automne. Je ne sais pas qui l'a entendu, qui l'a dit, mais je l'ai entendu. Voilà, c'est l'automne qui arrive. Et en quelque sorte, nous entrons dans l'automne de la vie de Moïse. Nous l'avons suivi depuis un moment, hein, depuis le temps qu'il était tout petit. Il est né dans un pays qui n'était pas très hospitalier, hein, à son égard. Il devait mourir, mais le Seigneur l'a gardé. Et puis, on est allé jusqu'à l'époque où, devenu grand, on peut dire qu'il est entré même dans le troisième âge, c'est là qu'il conduit Israël à travers le désert, vers la terre promise. J'ai pensé à ça aussi, c'est peut-être parce que je suis entré un peu dans ce troisième âge, que Dieu a fait encore de grandes choses dans sa vie, hein, même dans sa vieillesse. Et donc, il faut toujours être à sa disposition pour le servir comme lui veut nous conduire. Aujourd'hui, nous allons le retrouver sur le mont Sinaï, où il va recevoir de Dieu la loi. Et ça, c'est une image que nous avons tous de lui. Alors, je ne sais pas si les pierres avaient en réalité cette forme-là. Ça vient surtout de Hollywood, hein. Mais en tout cas, il a reçu... Dieu lui avait demandé de tailler des tables en pierre qu'il a dû à 80 ans porter en haut de la montagne. Et là, Dieu, avec son doigt, a écrit les 10 commandements là. Alors aujourd'hui, donc, je vois Moïse, le législateur, nous l'avons vu enfant, nous l'avons vu exilé de son pays, nous avons vu... devant cet homme appelé par Dieu, devant le buisson ardent, etc. Aujourd'hui, Moïse, le législateur, non pas que la loi vient de lui, mais c'est lui qui le transmet au peuple. Et dans ce sens, il est législateur, et il est en quelque sorte, non pas seulement au sommet d'une montagne, mais il est au sommet de son œuvre et au sommet de sa gloire, parce que partout, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, cherchant Moïse et ce qu'il a fait, le plus souvent, il est question de la loi de Moïse. Il est surtout, on se souvient surtout de lui par cet aspect-là de sa vie, d'avoir reçu la loi de Dieu. Mais disons que nous suivons les pas de Moïse, je veux dire en réalité que nous suivons les pas de la grâce de Dieu dans la vie de Moïse. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que Moïse, il a vécu, il est au ciel maintenant, et depuis longtemps, mais Dieu, il est toujours là avec son peuple. Et il veut toujours nous donner sa grâce. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait accomplir dans la vie de Moïse à cette époque où il lui a donné sa loi? Quel était le sens même de cette loi que Dieu a donnée à son peuple? Dans un sens, on peut dire qu'il avait un objectif final, il avait une finalité dans son esprit, quelque chose qu'il voulait accomplir, et à travers ça, eh bien, la loi devait servir à deux buts. Alors, l'objectif final, c'était de permettre aux Israélites de vivre en communion avec lui-même et en recevant toutes ses bénédictions. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Et ça n'a pas commencé le jour où il a donné la loi de Moïse. Ça, c'est depuis le temple d'Éden. Vous vous souvenez, l'homme, il a désobéi aux commandes là, dans le jardin d'Éden, il avait aussi une loi, n'est-ce pas? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et de mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y avait une loi. Et malheureusement, l'homme, il a désobéi. Et il a perdu cette communion, devait être chassé du jardin. Mais Dieu ne s'est pas arrêté dans son désir de communier avec nous, de nous bénir, de nous faire grâce. Et alors, ça a toujours été son cas. Après tout, à quoi bon aller dans la terre promise si Dieu n'est pas avec nous? En quoi est-ce que ce serait différent que de rester en Égypte, finalement? Vous voyez? Et alors, c'est ce que Dieu veut accomplir pour son peuple. Amos, il a bien posé le problématique en disant, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Vous imaginez deux personnes qui veulent, deux hommes, deux femmes, deux personnes qui veulent être ensemble, mais l'un il veut aller à droite, alors que l'autre il veut aller à gauche. Ils vont rester ensemble combien de temps? Pas longtemps. Non, non, il faut qu'ils se concertent, qu'ils tombent d'accord. Et puis, ensemble, ils suivent le même chemin. Et nous lisons également, dans 1 Jean chapitre 1, verset 6, que si nous disons, c'est peut-être le moment, parce que je pense que c'est quelque chose que nous disons tous ici. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Je pense que c'est le désir de tout homme, de toute femme, de connaître Dieu et de vouloir s'approcher de lui. Mais Dieu savait quelque chose sur son peuple Israël que Israël ignorait. Et si on le lui avait dit, il n'aurait pas voulu croire. C'est qu'il était pécheur. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ça m'amène au premier but donc, que Dieu avait en donnant sa loi, c'était de convaincre son peuple de pécher. Est-ce que vous êtes pécheur ce matin? Je ne demande pas de témoignage. Vous gardez ça dans votre cœur. Mais est-ce que vous êtes convaincu, oui? Si ça n'était que pour moi-même, de moi-même, je ne suis devant Dieu comme pécheur. Si je suis autre chose que pécheur, c'est parce que Dieu est intervenu dans ma vie et il m'a fait quelque chose que j'étais incapable de faire par moi-même. Mais en réalité, en moi-même, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Est-ce que vous êtes... Alors, j'ai mis ici « convaincre son peuple de pécher », je n'ai pas mis « convaincre son peuple des péchés », comme si Dieu voulait tout simplement arranger des quelques fautes d'Israël que Israël commettait de temps en temps. Non, le problème n'était pas seulement des fautes commises, mais le cœur qui était rebelle, et duquel est sorti ces mauvaises actions. Et Israël était loin d'imaginer qu'ils étaient un peuple pécheur. Alors, deux fois, dans le livre de l'Exode, où il est question de Dieu qui donne sa loi au peuple, il est indiqué qu'il le fait, pourquoi? Pour mettre son peuple à l'épreuve. La première fois, c'était aux eaux de Marah. On parlait d'eau tout à l'heure, d'être plongé dans l'eau de la joie du Seigneur, c'est bien. Mais ces eaux-là n'étaient pas bonnes. Hein. Israël venait d'entrer dans le désert, avait fait, je crois, 3 jours de marche. Ils avaient sans doute épuisé le réserve d'eau et commençaient à en avoir soif. Vous savez, ils ont quitté l'Égypte à la hâte. Hein. Ils n'avaient pas le temps de préparer les citernes, etc., les mettre sur le... Non, ils sont partis à la hâte. Et dans la joie, peut-être dans l'insouciance aussi. Mais là, il manquait d'eau. Et ils sont arrivés à un endroit qui n'avait pas de nom à l'époque. On l'appelait par la suite Marah à cause de l'eau. Le mot Marah signifie amer. Parce que lorsqu'ils ont vu l'eau, je pense qu'ils se sont tous précipités sur cette eau-là et se sont mis à boire. Et puis, oh là là, c'était imbuvable. C'était amer. et jusqu'à ce que Dieu montre à Moïse ce qu'il devait faire pour rendre cette eau potable. Et là, ils ont pu se désaltérer complètement. C'était bien. Mais c'était là, la première fois, dit la Bible, dans Exode chapitre 15, versets 25 et 26, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ah, je pensais que c'était sur la montagne. Oui, c'était sur la montagne, mais avant, c'était aux eaux de Marat. Et ce fut là qu'il fait quoi? Il le met à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il parle des plaies en Égypte, là. Je vous garderai de cela, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais je te mettrai à l'épreuve. La deuxième occasion, c'était lorsqu'Israël, c'était quelques jours, peut-être quelques semaines ou plus, plus tard, qu'ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Et là, l'Éternel a convoqué son peuple à s'approcher du bas de la montagne, et que Dieu lui-même est descendu sur la montagne, qui s'est mis à fumer, et c'était tout en feu. La Bible dit que toute la montagne tremblait. Vous imaginez? Et vous êtes en bas de la montagne, et puis par-dessus de cela, il y avait la voix de Dieu qui donnait sa voix. Il a dû crier très très fort pour se faire entendre par-dessus tout le bruit qui était là. Et ça a tellement effrayé le peuple que le peuple était convaincu, il va nous tuer là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Moïse de jouer le rôle d'intermédiaire. Toi, tu vas faire ce lieu-là. Et puis, tu reviens vers nous pour nous dire ce que Dieu te met dans l'oreille. Et Moïse, alors là, c'est Exode chapitre 20, le chapitre où nous retrouvons les 10 commandements. Là, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Vous voyez la deuxième fois qu'on voit cette expression? C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Vous voyez, le don de la loi était une mise à l'épreuve pour Israël. Pour savoir, est-ce qu'elle va faire autrement que Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'elle va obéir à toutes les ordonnances et les lois, les respecter? Est-ce que c'était pour que Dieu sache ce qui était dans le cœur de son peuple? Pas du tout. Dieu, il était très au courant du cœur de son peuple. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, on retrouve cette expression dans l'Exode et dans les autres livres de Moïse, où Dieu regarde son peuple, et il dit, c'est un peuple au cou raide, ce sont des rebelles. Et il est allé même à annoncer à Moïse, des siècles à l'avance, qu'à terme, leurs infidélités allaient les conduire à non pas entrer dans le pays, mais à en être exilés. Ils allaient faire un jour pire que les nations qui étaient là avant elles. Et Dieu allait devoir les chasser de là. Non, Dieu, il était très au courant, mais Israël ne l'était pas. Et probablement, si vous aviez eu la possibilité de poser la question à Aaron, enfin, je ne sais pas qui dans la nation, vous êtes pécheur, vous pensez que Dieu vous accepte? Oh, oui, on est bien, Dieu nous a choisis, on doit être très bien à ses yeux. Pas de problème. Mais ils avaient besoin de savoir qu'ils étaient pécheurs. Dieu le savait, mais Israël, non. Mais ce que je dis là n'est pas propre ou réservé à Israël. Il n'y a personne sur la terre qui comprend vraiment l'état spirituel de son cœur. S'il commence à avoir les yeux ouverts sur son vrai état, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler en lui. Mais vous savez, la Bible dit que l'homme, il est aveugle et esclave de péché, de par sa nature, de par ses mauvaises décisions, par aussi l'influence du diable, parce que il aime bien nous enfoncer là, nous éloigner de Dieu. Et ça m'a surpris aussi de découvrir que quelquefois, pour un peuple qui est obstiné dans sa désobéissance, eh bien, cet aveuglement, cet esclavage. Oui, bon, vous le connaissez. C'est par un jugement divin. Dieu peut faire ça. Regardez par exemple, vous connaissez ce verset dans Jérémie chapitre 17, verset 9, qui dit le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Vous avez peut-être mémorisé ce verset, c'est tellement frappant, mais le verset se termine en disant, qui peut le connaître? Qui peut le savoir? Oh oui, de temps en temps, je fais les petits péchés mignons, comme on dit. Hein? Est-ce qu'il y a des péchés mignons, d'après vous? Non, c'est jamais très mignon. Hein? Mais un Corinthien dit également ceci, mais l'homme naturel, tel qu'on est à la naissance, eh bien, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut saisir, comprendre, accepter, assimiler comme vérité dans notre cœur, à moins que Dieu nous les révèle. Et il nous convainc hein, de notre erreur. Donc, de nature, on est limité. Mais aussi, on prend des mauvaises décisions. Voilà ce qu'a dit Jésus. Christ, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché. Ça sous-entend une décision. On examine, on se dit, je fais, je ne fais pas, et puis on se livre. C'est un choix personnel. Et on devient quoi? Esclave de péché. J'ai lu ces derniers temps, parce que dans mon culte personnel, je suis des livres dans la Bible, je suis dans les Actes actuellement, à la fin des livres, les Actes, et voilà ce que Paul a dit à certains de ses compatriotes. C'est dans les tout derniers versets du livre des Actes des Apôtres. Où il dit qu'à le cœur de ce peuple, c'est pas nouveau. Ce qu'il va dire, c'est une citation d'Ésaïe. C'est-à-dire depuis tout temps, le peuple était comme ça, et Paul a fait encore le constat, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ah, on revient à Mara, là, n'est-ce pas? Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Puis, il y a Satan qui œuvre là également. Hein, dans 2 Corinthiens, toujours, Paul a dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui ?» Bien, pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez la progression dans ce passage? Ils sont incrédules. Ils ont déterminé dans leur cœur, non, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas croire en lui. Eh bien, Satan, quand il voit ça, il vient, il les aveugle davantage. Et quelle est la finalité? Où est-ce qu'ils terminent leur chemin? Eh bien, à la perdition. Ils périssent. Et cela malgré le fait que l'évangile est annoncé. Si notre évangile est voilé, c'est à ces gens-là. Parce qu'il est annoncé. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a parfois même un jugement divin. Jean chapitre 9, verset 39, dit une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu dans le monde. Je n'ai jamais entendu ce verset comme un texte clé pour Noël. Mais il est venu pour ça, entre autres, il dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. » De qui parle-t-il? Ben, Jésus-Christ vient de guérir un homme qui était aveugle de naissance. Il a mis de la boue sur ses yeux et il a pu voir. Cet homme aveugle, Dieu a pu intervenir dans sa vie pour qu'il voie. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il ajoute, je suis venu aussi pour que ceux qui voient, ou peut-être qui pensent voir bien, deviennent aveugles. Et là, il parle des pharisiens qui étaient tout près. Comme ils étaient toujours, ils suivaient Jésus-Christ, cherchant une occasion de le piéger, de le dénoncer, de le discréditer aux yeux du peuple. Et là, ils avaient la loi. Il y en avait qui avaient mémorisé de longs passages de la loi, mais ils ne mettaient pas en pratique. Vous voyez? Et donc, non pas seulement ils avaient le cœur mauvais eux-mêmes, mais ils critiquaient ceux qui voulaient suivre l'Éternel, même Jésus-Christ. Eh bien, il dit, pour les gens comme ça, je suis venu pour faire un jugement. Et par conséquent, Paul, il dit ceci, il décrit le cœur des Juifs, il dit quoi? Donc, sommes-nous plus excellents, être plus excellents que les non-Juifs? Est-ce que nous, les Juifs, nous sommes supérieurs spirituellement parlant? Sa réponse, nullement. On n'est pas meilleurs. Car nous avons déjà prouvé, dit-il, que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Vous voyez ça? Tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ni juif, ni grec. Et il n'y avait aucun juif à l'époque qui aurait dit « Amen ». Il n'y a aucun grec qui aurait dit à l'époque « Amen ». Pas du tout. Ils auraient crucifié la personne qui dit ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus-Christ, justement. Alors la question est celle-ci. Si Dieu veut que l'homme vive en communion avec lui, bénéficiant de ses bénédictions, alors comment être sauvé si on se croit déjà juste? Si la chose qui nous sépare de Dieu, c'est nos péchés, comme dit Ésaïe le prophète, eh bien, il faut le savoir. Il faut le savoir. Je sais que c'est un message qui plaît pas, mais c'est salutaire. Et Dieu, il ne cache pas la vérité. Il nous fait quelque chose de très bien quand il vient nous dire, Richard, je vais vous dire comme ça, hein, Richard, tu as fait quelque chose, tu as pensé quelque chose, tu as dit quelque chose que tu ne devais pas. Tu es pécheur. Tu as besoin de ma grâce, tu as besoin de mon pardon. Eh bien, Paul, quand il décrit ces juifs orgueilleux tenant la loi dans leurs mains comme ça, il a dit, toi, juif, qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit dans la loi, ils avaient la loi. Eh bien, toi donc, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, là. Vous voyez leur orgueil hein, spirituel, là. Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, qu'est-ce que tu fais? Tu dérobes. Il est en train de citer les 10 commandements. Vous voyez? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, ça c'est le tout premier commandement, hein, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, eh bien tu commets des sacrilèges. Et ça va encore plus loin. Parce qu'il dit, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Terrible, hein? Je pense que nous serions vraiment outrés, désolés à l'extrême de penser que notre communauté ici puisse devenir, à un moment donné, une occasion de blasphémer Dieu plutôt que de glorifier Dieu. Oui. Mais vous savez, quelqu'un a lu, je crois, ce matin dans l'Apocalypse. Il y a des lettres qui ont été écrites à l'Apocalypse. Et Dieu a dit, attention, repentez-vous, sinon j'enlève votre chandelier. L'Église n'existera plus. Alors Paul, il a dit, je leur rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, d'accord, mais sans intelligence. Et quel est le résultat de tout ça? Ben, ils ne sont pas sauvés. Et c'est ça le problème. Ils ont la loi, mais ils ne savaient pas se voir dans la voie de Dieu. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous demandez à Dieu d'éclairer votre vie, de vous démontrer si vous êtes vraiment en règle avec lui ou pas, s'il n'y a pas quelque chose peut-être à changer dans votre cœur? Alors cette pauvre nation avait tant de privilèges, tant de fierté, mais tant de culpabilité et tant de condamnation. Et surtout à la fin, ils n'étaient pas sauvés. Ils n'avaient pas reçu ce que Dieu voulait leur donner, cette communion avec lui et cette bénédiction sur eux. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu être comme ce publicain qui était dans le temple et qui est après être allé au temple et rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Là, la loi avait fait son travail dans son cœur, n'est-ce pas? Là, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et nous, est-ce que nous avons compris? Je vous ai donné mon témoignage la semaine prochaine. J'aurais pu dire quelque chose comme ceci. Je viens d'une famille croyante et pratiquante. Hein? Et je me suis fait baptiser. Oui, d'accord. Je suis fidèle aux réunions de l'Église. Je l'étais. Je connais la Bible. J'aime chanter les cantiques. Hein? On est en train de se décrire là, n'est-ce pas? C'est vous, non? C'est moi aussi? Oui. Mais alors, Dieu va certainement m'accepter, non? À cause de tout ça? Comme je vous ai dit, quand on m'a posé la question, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? La réponse qui est venue dans mon cœur, c'était, ben c'est moi, je ne suis pas sauvé, je ne vois pas qui puisse être. À cause de tout ça. Oui. Vous voyez, j'étais aveugle. J'étais aveugle. Je voyais le positif, je refusais de voir. C'était pas même que je refusais. J'étais loin d'imaginer que moi, j'étais le pécheur. Pour moi, quand on disait pécheur, c'était les gens en dehors, comme on disait. C'était pas moi. Je vous ai pas raconté, mais ce soir-là, il y avait comme... Je ne crois pas que j'ai eu véritablement une vision, mais j'étais tout petit, j'étais un gamin, et les gamins, les petits-enfants sont très concrets, n'est-ce pas? Et lorsque la personne a posé la question, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? C'était comme si je voyais dans le lointain les portes du ciel et toute une défilée de personnes qui allaient vers le ciel. Et devine qui était le premier dans le défilé? C'était moi, j'étais sûr. Et vous êtes sûr d'aller au ciel? Moi, je me disais, si moi je ne vais pas au ciel, je ne vois pas qui puisse aller. Hein? Eh oui. Ah oui, on a les deux qui travaillent en même temps. Là. Mais, et alors, quand il a cité ce verset que je vous ai cité la semaine dernière, qui dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein? Il y a certainement un conflit entre les deux. Ça va revenir. Et là, l'image que j'avais dans ma tête de ce défilé qui va aller vers le ciel a changé radicalement. La seule chose qui changeait en réalité, c'était ce qui était au bout de ce chemin. Ce n'était plus le ciel, c'était l'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et j'étais toujours le premier dans le défilé. Là, je n'aurais pas compris, je n'aurais jamais imaginé, je n'aurais jamais accepté par moi-même. J'étais un petit aveuglé. Hein? Et Dieu, ouais, ça commence à venir. Mais ce sont des choses qu'on pense quelquefois, hein, c'est parce que je viens d'une bonne famille et je fais ceci, je fais cela, certainement, Dieu m'acceptera. Ben, écoutez ce que Jésus-Christ il a dit lui-même à certaines de son époque. Hein. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, on s'arrête un instant, qui ne dirait pas ici Seigneur, pensant à Jésus. Vous le direz, n'est-ce pas? Moi je le dirais. Seigneur, Seigneur, ben, regarde ce qu'il dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait, non pas seulement qui lit, qui tient une copie de la Bible dans sa main et qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et apparemment, c'était vrai. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, il ne suffit pas de chanter les beaux cantiques, il y en a des beaux, mais j'aime bien chanter autant que vous. Et même avec le masque, ça me plaît bien de chanter ces cantiques et de dire des choses qui sont bibliques, citer les versets, mais ça ne fait pas de moi un chrétien. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes incapables de devenir par nous-mêmes. Alors, c'est pour cela que Dieu a donné sa loi. Il est dit dans Romains chapitre 3, verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance de péché. Est-ce que vous savez quel était le petit péché mignon, on peut s'exprimer comme ça, de Paul? Vous savez ce que c'était? Il dit ceci, parce qu'il critiquait pas seulement les autres, il a dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. C'est les 10 commandements encore. Et tout d'un coup, ça l'a convaincu de péché. Il avait des convoitises. Il cherchait peut-être la gloire des hommes, le standing dans la société, etc. Mais il a dit, voilà, je n'aurais pas compris, mais la loi m'a convaincu. Et c'est pour cela que Dieu l'a donné. Nous avons besoin de savoir que nous sommes pécheurs si nous voulons vraiment avoir la communion et les bénédictions de l'Éternel. Alors, est-ce possible que quelqu'un, je pense que probablement la grande majorité d'entre nous, avons déjà fait cette expérience douloureuse, certes, mais de savoir je suis pécheur, que je n'ai rien en moi-même pour me présenter devant Dieu. Je parlais la semaine dernière avec quelqu'un après avoir donné mon témoignage et cette personne m'a demandé mais qu'est-ce que c'était le chant qui était chanté à la fin de ce culte où tu as accepté Christ. Et c'est très à propos ici parce que ce chant dit tel que je suis sans rien en moi sinon ton sang versé pour moi et ta grâce m'a fait la joie, agneau de Dieu, je viens, je c'est nécessaire d'arriver au bout de soi-même pour tourner vers quelqu'un d'autre qui peut nous sauver. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Celui qui a donné la loi, même la toute première fois, à Mara, a dit ceci, on a remarqué, je suis l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça me montre déjà deux choses. La première, c'est que Dieu connaissait bien son peuple. Il savait qu'ils n'allaient pas être capables. Il leur a dit, hein, je vous mets à l'épreuve. Est-ce que vous allez suivre mes commandements, obéir à tout ce que je vous ai prescrit? Ben, apparemment, il savait que non, qu'ils auraient besoin de la guérison. Et la deuxième chose que cette petite expression m'apprend, c'est qu'il veut faire ça pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Si vous êtes là ce matin un peu accablé par le pensée, j'ai offensé Dieu, je ne suis peut-être pas prêt pour aller au ciel, sachez, il y a une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas seulement nous accabler d'un sentiment profond de culpabilité, mais il veut nous relever et nous donner une espérance de la vie éternelle. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu a donné sa loi. C'était pour conduire le pécheur, celui qui se reconnaît maintenant comme pécheur, conduire au sauveur. Ça, c'est ce que la loi veut dire. Jésus-Christ, il fait allusion à ceci quand il est apparu à ses disciples après sa résurrection. Et là, il les a retrouvés là, et il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est quoi écrit de moi dans la loi de Moïse. Tiens, tiens. Dans les prophètes et les psaumes, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite les morts. Tout ça, il fallait bien. On a parlé de moi. Et Galates chapitre 3, verset 24, parle de la loi qui était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'est pas pour nous accabler, pour nous enfoncer dans notre culpabilité, mais pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Là, alors, un précepteur, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Quoique pendant le Covid, c'est revenu un peu à la mode. Parce qu'un précepteur est une sorte d'enseignant particulier que les parents vont payer pour qu'il vienne dans la maison instruire les enfants. Et pendant le temps que les écoles étaient fermées, c'est ce que beaucoup ont fait. Des précepteurs. Et c'était déjà en vogue à l'époque du monde gréco-romain qu'il y avait des précepteurs, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'école publique ouverte à tous. Donc, si les parents avaient le souci d'éduquer leurs enfants, il fallait qu'ils payent ou qu'ils aient un esclave, des fois c'était comme ça, qui était déjà instruit lui-même, qui pouvait transmettre ses connaissances aux enfants. Et puis, quand ce précepteur arrivait au bout de ses connaissances, il prenait les enfants par la main et il les amenait vers un maître qui en avait plus. Et les confier à ce maître-là. Et il dit, voilà ce que la loi a fait pour nous. J'étais là, la loi était là pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que la loi nous apprend? T'es pécheur. T'es esclave de péché. Tu es condamné par la justice de Dieu. Mais alors, que faire? Ben, cherche donc un sauveur. Cherche donc un sauveur. Et Jésus-Christ a dit, la loi de Moïse parlait de qui? De moi. De Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui était ce sauveur attendu. Et Jésus qui dit, tu es pécheur? Ah, je le savais déjà. Mais je suis mort pour tes péchés. Tu es esclave, oh, et combien? Tu as déjà essayé à plusieurs reprises d'arrêter de faire, je ne sais pas quoi, mais telle chose dans votre vie. Vous avez eu du mal, vous êtes tombé à plusieurs reprises, vous êtes remonté, très bien, mais vous voyez, tu es esclave de péché, mais sachez que je suis ressuscité en vie nouvelle pour te libérer du péché. Et te offrir aussi la possibilité de vivre en nouveauté de vie. Tu es condamné, certes, c'est la justice de Dieu, mais j'ai pris ta condamnation sur la croix. C'est bon de savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, mais c'est bon aussi, c'est biblique, hein, mais aussi de savoir que Christ a pris sur lui notre condamnation, notre culpabilité, notre condamnation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu écrire dans le livre aux Romains, il écrit « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour qui ? Ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et c'est la loi de Dieu qui voulait nous conduire à Christ. Vous voyez, la loi est parfaite, hein? La loi est parfaite, c'est l'expression, si vous voulez, de la sainteté de Dieu. Et on ne peut pas trouver de faute dans la loi de l'Éternel. Mais elle est comme une lampe torche qui éclaire notre cœur, hein, et qui nous montre que, oui, moi je suis pécheur, esclave, etc. Il m'éclaire, mais la loi ne m'aide pas. J'ai la lumière dans les yeux. La loi ne m'aide pas à marcher selon la droiture qu'elle m'enseigne. Vous voyez? Mais Christ, oui. Oui, il peut nous aider. Et là, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre a dit tout cela plus simplement. La loi nous dit, fais ceci et tu vivras. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Honore le sabbat. Hein? Respectez le sabbat. Tu honores ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras pas de mensonge. Tu ne... etc., etc. Mais Jésus... Et tout ça, c'est juste. Nous devons vivre comme ça. Alors, on va dire, vas-y, essaye. Et Dieu nous le demande à travers la loi, non pas pour nous dire en quelque sorte, si tu arrives, tu seras certainement sauvé. Parce qu'il sait qu'on est incapable. C'est pour nous éveiller au fait que en moi tout seul, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis incapable. Fais-toi, fais et vivre. Mais Jésus-Christ dit ceci, tout est accompli. Ou quelqu'un a réduit ça encore plus succinctement. L'un dit « fait » et l'autre dit « faites ». C'est déjà fait pour toi. Alors, la Bible donne des assurances. Elle nous promet que le sang de Jésus son Fils nous purifie de la moitié de nos péchés. Amen. Mais les deux moitiés, hein. Oui. Tout péché nous purifie de tout péché. Et là, c'est formidable. J'avais besoin d'avoir tous les péchés effacés par le sang de Jésus-Christ. Et puis, plus loin encore, Romains chapitre 5 dit ceci, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, vous voyez, là, il fait référence au sang de Christ, hein, il est mort pour vous, et par sa mort, il nous réconcilie avec le Père, parce qu'il n'y a plus de péché qui agit comme une barrière entre vous et lui. Mais il dit encore plus, étant maintenant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et ça, c'est d'être libérés. Libérés de notre esclavage au péché. Moi, je ne peux pas le faire de moi-même. Je ne vais pas prendre le temps de le faire maintenant, mais je vous encourage, une fois que vous êtes rentré à la maison, de lire le dernier chapitre du livre de Josué, où Josué prend un nouvel engagement du peuple de vivre pour Dieu. Et puis il leur dit, je sais que vous êtes incapable de le faire. Incapable de le faire. Mais Dieu, en Christ, nous sommes sauvés. Vous savez, en Jésus-Christ, nous bénéficions du pardon. Amen. Oui. Nous bénéficions des prières de Jésus-Christ. Il intercède pour nous. Oui. Nous bénéficions de sa présence. Il vient en nous, dans son esprit. Il est là, il ne reste pas distant. Il est avec nous tous les jours. Et il nous donne aussi sa force, son pouvoir. Nous avons pardon, prière, présence, pouvoir en Christ. Et la loi ne pouvait donner rien de tout ça. Mais Jésus, il peut. Et non pas seulement il peut, il veut le faire. Il veut le faire. Et il a déjà tout fait pour que nous l'ayons. Quelqu'un m'a dit une fois, en me tendant un stylo, un livre, quelque chose comme ça, et il a dit, voilà, je veux t'offrir mon stylo. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ce stylo devienne vôtre? Elle a eu un cadeau ici, ça ne vaut pas grand-chose, hein, je ne sais pas grand-chose, mais Dieu il est là et il a fait tout le nécessaire pour nous offrir la vie éternelle, une vie nouvelle, régénérée, et à nous de le recevoir. Alors, je pense que nous sommes déjà passés par là, mais peut-être sur la table, vous vous sentez convaincu par la loi de Dieu, par la parole de Dieu, que je suis pécheur. Oui. Mais j'aimerais vous dire une chose, que nous sommes tous dans cette même condition. Hein. L'Église n'est pas comme une salle d'expo, hein, où nous mettons en avant les meilleurs chrétiens du monde, hein. Et vous êtes tous bien habillés, souriants, etc., même derrière les masques ce matin. Formidable. Mais l'Église n'est pas une salle d'expo des chrétiens des meilleurs. C'est plutôt un hôpital où celui qui a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » peut opérer des cœurs. Et nous sommes là soit parce qu'il a déjà fait cette opération en nous, ou encore qu'il veut le faire ce matin. Et non pas seulement d'opérer, enlever le péché en nous, mais nous aider à apprendre à marcher avec lui. C'est ce qu'il a fait. Alors, pour résumer, la loi dit, arrête de regarder à toi-même, hein, de chercher en toi-même le nécessaire pour être accepté par Dieu. Regarde à Jésus-Christ. La loi fait ces deux choses-là. Sachez-le, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de tout ce que vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse. Vous le pouvez. Même si vous avez brisé tous les dix commandements, il peut vous les pardonner tous. Galates dit ceci néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. La loi ne peut pas. Il peut nous montrer quelles sont les œuvres à accomplir, mais il ne peut pas nous justifier. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié, déclaré juste par Dieu, par les œuvres qu'il aurait accomplies de la loi. Alors j'aimerais juste terminer en disant ceci, c'est un verset de la Bible. Crois donc au Seigneur Jésus-Christ. Accepte ce que Dieu veut vous dire sur vous-même ce matin, et si vous ne l'avez pas encore fait, même si vous êtes un peu comme moi, j'étais à l'époque me demandant, mais tout le monde croit que j'ai déjà fait le pas. Tout le monde me croit déjà croyant. Qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi si jamais Si vous êtes convaincu dans votre cœur que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, que vous avez besoin de son pardon et de sa grâce pour vivre en nouveauté de vie, je vous invite à croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé.